Le grand témoin. Le grand témoin. Louis Dauphren.
Et donc, nous voilà reconfinés, même si les modalités sont un petit peu différentes. La population avait déjà été confinée pendant 55 jours au printemps avec de sévères restrictions, des déplacements, la fermeture des établissements scolaires, des commerces non essentiels, des frontières. Les choses donc se renouvellent avec le chef de l'État qui a annoncé hier lors d'une allocution télévisée qu'à partir de vendredi, un confinement sur tout le territoire national serait de nouveau en vigueur pour endiguer l'épidémie de Covid-19 dont la première vague avait fait plus de 30 000 morts. Le Premier ministre va détailler les mesures aujourd'hui, les faire connaître à la presse. On sera fixé aux alentours de 18h30 sur les modalités précises de ce qui a été annoncé hier. Alors on va voir les choses sous l'angle sanitaire et puis sous l'angle de l'hôpital avec le professeur Philippe Juvin qui nous fait l'amitié d'être présent avec nous en ligne, c'est vrai, par un système qui lui permet d'être à la fois à l'hôpital et à la radio, ce qui est bien commode. Il est chef des urgences à l'hôpital Pompidou, maire de la Garenne-Colombe dans les Hauts-de-Seine. On l'avait déjà eu au moment du confinement et c'est l'occasion de faire le point avec lui sur la façon dont il envisage cette période une nouvelle fois difficile, sauf que là on n'est pas dans le printemps mais au début de l'hiver et donc les choses risquent d'être un petit peu plus délicates. Bonjour professeur Philippe Juvin. Alors, on ne vous entend pas, vous êtes normalement avec nous. Oui. Bonjour professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça se passe là chez vous depuis que les annonces ont été faites hier, mais comment est-ce que vous envisagez votre journée d'aujourd'hui, la façon dont les choses vont se mettre en place pour vous?
Parce que nous observons depuis maintenant plusieurs semaines, c'est une montée progressive, alors beaucoup moins abrupte que ce que nous avions connu au mois de mars, mais progressive réelle, du nombre de patients qui doivent être hospitalisés pour du Covid, que ce soit en réanimation ou pas. Et le sujet est bien là, c'est l'encombrement du système de santé, une inadéquation entre le nombre de lits disponibles et le nombre de patients qui arrivent et qui va arriver. Parce qu'il y a une deuxième observation que nous faisons et qui est probablement l'élément clé qui a poussé le président de la République à prendre la décision qu'il a prise, c'est que nous observons de plus en plus de positifs quand les tests sont faits. Il y a au mois d'août, quand on faisait 100 tests, il y avait 2 à 3% des gens qui étaient positifs. Là, on est plutôt aux alentours de 20, donc on est à 20% de positivité. Et pour les patients les plus âgés, on va dire pour la tranche d'âge au-dessus de 75 ans, on est à 35%. Ce qui signifie que quelqu'un qui est positif aujourd'hui, qui devient positif aujourd'hui, s'il doit être hospitalisé, faire une forme grave, ce qui, je le rappelle, heureusement n'est pas la règle, mais quand même relativement fréquente toutefois, il la fera d'ici 2 à 4 semaines. Et donc, on peut s'attendre à une augmentation encore plus significative dans 2 à 4 semaines.
Mais est-ce qu'à l'hôpital Pompidou, vos services d'urgence, le service d'urgence est déjà saturé? Est-ce qu'on est au niveau du 3/4 des lits occupés par le Covid?
Alors le service d'urgence lui-même, non, puisque nous ne sommes qu'une porte d'entrée. En revanche, les lits d'hospitalisation et les lits de réanimation sont extrêmement occupés, à tel point que nous avons commencé à déprogrammer des patients, comme partout d'ailleurs en France, qui devaient avoir des examens par exemple ou des interventions chirurgicales pour d'autres raisons et que nous avons considérées comme n'étant pas urgentes. Mais c'est un des vrais sujets, si vous voulez, de l'épidémie de Covid, c'est que ça provoque une désorganisation du système de soins et cette désorganisation, elle se fait aussi au détriment des gens qui n'ont pas le Covid.
Et de combien de lits disposez-vous aujourd'hui ?
On en ouvre tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours, soit on prend des lits qui étaient fermés et nous essayons de les pourvoir en trouvant du monde à l'extérieur, du personnel, soit nous transformons des services, par exemple le service de chirurgie plastique, qui est un service réputé mondialement, qui est dirigé par le professeur Lantieri, a donné ses lits à une structure nouvelle que nous avons créée pour accueillir des patients Covid. Il s'agit d'une quinzaine de lits. Et donc, on va progresser comme ça durant les semaines, si la situation s'aggrave. Nous allons, en réalité, transformer des lits non Covid en lits Covid. Là aussi, malheureusement, au détriment, comme je vous le disais, de l'exercice de spécialité habituelle qui vont devoir demander à leurs patients d'attendre.
Professeur Juvin, expliquez-nous quand même ce qu'il en est de ces lits de réanimation, parce que le chiffre qui a été annoncé hier, hein, je cite Emmanuel Macron, « Quoi que nous fassions, près de 9 000 patients seront en réanimation à la mi-novembre. » c'est donc bientôt, soit la quasi-totalité des capacités françaises, ce qui veut dire que ce qui a été fait jusqu'à présent, on peut en déduire, c'est ce qu'on peut déduire, n'a pas servi à grand-chose et même à rien, puisque de toute façon, les lits de réanimation vont être saturés dans peu de temps. Et puis le nombre de patients qui s'élevait mercredi à 3036 patients, soit plus de la moitié des 5800 lits de réanimation disponibles dans toute la France. Alors, de combien de lits de réanimation la France dispose-t-elle vraiment ? Comment est-ce qu'on calcule ce chiffre ?
Vous avez raison de souligner ça. Il y a une sorte de jeu de bonne toux avec les lits de réanimation. Le chiffre, la France dispose de 5000 lits de réanimation en temps normal, 5000. Et ce que nous avons fait durant la crise du mois de mars, c'est que nous avons augmenté ce nombre, non pas en créant des nouveaux ces lits, mais en, encore une fois, transformant des lits qui n'étaient pas des lits de réanimation en lits de réanimation avec les moyens du bord. C'est-à-dire que nous récupérions des respirateurs, du matériel qui venait de l'extérieur, nous reprenions du matériel qui était dans nos réserves, et nous mettions du personnel qui était du personnel qui avait des qualifications de réanimation sans être vraiment réanimateur, par exemple, dans le service des urgences.
Ah, professeur Juvin, j'ai l'impression qu'on vous a quitté là, à l'instant même. Est-ce que vous êtes toujours avec nous ? On va essayer de renouer le contact avec vous-même. Je rappelle que vous êtes chef des urgences à l'hôpital Pompidou et que vous êtes dans votre service même en ce moment où vous nous parlez, pour savoir ce qu'il en est précisément des services de réanimation. Alors je reprécise un petit peu les choses. Donc je disais à l'instant que 3000 personnes, c'est le nombre de patients, soit plus de la moitié des lits de réanimation qui sont donc occupés par des cas Covid. Et la question que je posais, c'était de combien de lits de réanimation la France dispose-t-elle, sachant qu'il faut un personnel formé, à peu près 12 personnes par lit de réanimation, si j'en crois les professionnels. Mais je ne pense pas, et je voulais poser la question au professeur Juvin, je ne pense pas que ce chiffre intègre les lits disponibles dans le privé, par exemple. On n'a pas du tout entendu parler des cliniques privées dans l'appréciation du président de la République. Et puis, on n'a pas du tout entendu parler non plus de la possibilité d'extension de ces lits de réanimation, ainsi que le disait à l'instant le professeur Juvin, de savoir si on pouvait, en quelque sorte, non pas en bricoler, mais d'une certaine façon, même si ils étaient moins équipés qu'un lit labellisé lit de réanimation, s'il y avait la possibilité, tout simplement, d'augmenter la capacité hospitalière de ce point de vue. Donc, le professeur Juvin devrait peut-être nous apporter dans quelques instants une réponse à cette question qui lui a été posée, que je ne peux pas anticiper évidemment à sa place. Qu'est-ce qu'on peut lui dire aussi ? Qu'est-ce qu'on peut poser d'autre comme question, professeur Juvin ? Vous pouvez peut-être d'ailleurs le faire sur les réseaux sociaux, puisque vous avez déjà cet outil qui est à votre disposition. Sachez qu'on vous a posé une question tout à l'heure à l'occasion de la question du jour entre 7h12 et 7h24. Les mesures annoncées par le président Emmanuel Macron vont-elles dans le bon sens ? Donc vous êtes invités à y réagir. Donc la question qui est posée aujourd'hui pour le grand témoin avec le professeur Juvin, c'est: les urgences sont-elles saturées ? Pourquoi ne pas recourir aux cliniques privées ? Et apparemment, nous dit-on, le professeur Juvin est de nouveau avec nous, professeur.
Oui, je suis désolé, je suis de nouveau présent.
Ben non, j'imagine bien que vous êtes en première ligne en ce moment même. Alors, vous étiez en train de nous parler des lits de réanimation, en fait, pour savoir comment évaluer les capacités hospitalières précises à ce sujet. Et je voulais aussi vous poser une question de savoir si on envisageait de recourir au privé, par exemple, parce que les cliniques privées n'ont pas du tout été mentionnées par le président de la République.
Oui, alors évidemment, dès au mois de mars, à l'aide de nos confrères du privé, qui ont...
Apparemment, la liaison est quand même difficile, alors que nous passons par une application qui est normalement très efficace et qu'utilisent tous les médias. Le professeur Juvin, êtes-vous avec nous ? Apparemment, vous nous avez de nouveau quittés, décidément. Vous nous laissez en suspens sur des questions importantes et auxquelles on aimerait bien avoir les réponses, hein, les réponses que vous devriez nous apporter sur le sujet. Alors, donc, il y a un premier volet de questions. J'espère qu'on aura le temps de toutes vous les poser, qui portent sur l'état des urgences aujourd'hui, l'état des capacités hospitalières. Qu'est-ce qu'un lit de réanimation ? Est-ce qu'on peut en ouvrir ? Est-ce qu'on peut recourir au privé ? Est-ce qu'on peut en constituer, même s'il ne représente pas des lits labellisés en tant que tels, pour élargir les capacités hospitalières ? Est-ce que ce sera suffisant ? Ça, c'est une première question qui vous est directement posée en tant que responsable des urgences de l'hôpital Pompidou. Puis il y a toutes les autres questions qui ont trait au-delà des urgences à la façon dont on combat la maladie. Est-ce que la maladie aujourd'hui est bien envisagée ? Est-ce qu'on peut espérer un traitement, etc. Alors le professeur Juvin est de nouveau avec nous. Oui, professeur ? en direct de l'hôpital Pompidou. Est-ce qu'on peut espérer avoir le professeur Juvin? Sinon,
moi, je vous entends.
Vous nous entendez, c'est l'essentiel. Nous aussi, apparemment. Alors, professeur, est-ce qu'on peut avoir votre réponse sur les capacités hospitalières en termes de lits de réanimation?
Alors, je ne sais pas si vous avez entendu ma réponse, mais en fait, officiellement, nous avons 5000 lits de réanimation en France. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que les Allemands en ont 5 fois plus, 25 000. Et ce qui se passe dans le cas de crise, de nouveau, alors, quand on dit ouvrir, c'est quoi en pratique? On ne crée pas des... On prend des lits qui ne sont pas des lits de réanimation.
Oui.
On prend des lits qui ne sont pas des lits de réanimation. Et en pratique, on y met du matériel de réanimation, on y fait venir des équipes. Mais c'est vrai que ce sont des lits qui sont pris sur l'exercice d'autres spécialités.
Et ça permet, à votre avis, à l'échelle nationale, je ne sais pas si vous pouvez avoir un jugement à l'échelle nationale, mais de porter nos capacités à combien de lits?
On peut imaginer passer à, on est à 5 000, doubler 10 000, peut-être un peu plus. Le vrai sujet, pour être très franc, c'est que je ne comprends pas, toujours pas pourquoi, alors que nous avons vécu le mois de mars, nous sommes toujours au même nombre 8 mois plus tard. Il aurait fallu préparer cette deuxième vague. J'ai comme l'impression, si vous voulez, qu'un pari a été fait sur la survenue ou pas de la nouvelle vague et que nous ne sommes pas suffisamment préparés. C'est inconcevable que nous soyons partis avec 5000 lits au mois de mars et que nous nous retrouvions toujours avec 5000 8 mois plus tard.
Est-ce qu'il aurait pu être envisageable de recourir donc aux cliniques privées? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça n'a pas du tout été mentionné dans l'allocution présidentielle.
Alors, bien sûr, non seulement c'est envisageable, mais nous devons et nous allons le faire. Nous l'avons fait au mois de mars. Nous avons collaboré avec nos collègues. Il faut savoir toutefois que l'hospitalisation privée a des lits, a de nombreux lits, mais a relativement proportionnellement peu de lits de réanimation, c'est-à-dire avec un environnement technique et humain spécialisé. En revanche, nous avons besoin non seulement de lits de réanimation, mais aussi beaucoup de lits qui n'ont pas d'hospitalisation, pas de réanimation, des lits classiques. Pour les patients du Covid, parce que la majorité des patients du Covid qui sont hospitalisés ne vont pas en réanimation, Dieu merci. Et là, ils peuvent nous donner un coup de main. Donc ça va se faire, ça se fait sur le terrain. Nous avons de bonnes relations. Moi, dans mon service, nous travaillons tous les jours, en temps normal déjà, avec le privé à qui nous confions des patients. Et ça doit se faire maintenant à une échelle quasi industrielle. Mais tout ça, si vous voulez, demande une préparation. Et c'est ça qui est très irritant, c'est que ça fait 8 mois qu'on est l'arme au pied. On prétend plutôt être l'arme au pied et on a l'impression que rien n'a été vraiment planifié. D'ailleurs, le fait qu'il y a encore 2 heures avant l'intervention du président, nous ignorions les mesures qui allaient être prises, témoigne que rien n'est planifié et que les décisions sont prises au jour le jour et avec un sentiment d'improvisation qui est extrêmement désagréable.
Mais professeur Juvin, sur ces lits de réanimation, pardonnez-moi d'insister, mais je voudrais savoir quand même ce qu'il en est de votre niveau de saturation. Est-ce que vous allez donc être saturé à l'hôpital Pompidou à la mi-novembre, d'une part? Et puis, est-ce que vous confirmez ce qu'a dit le président de la République hier en disant « mais en quelques mois, on ne peut pas former le personnel ». Sa demande, il a cité des chiffres très précis, 10 ans pour un anesthésiste, 5 ans pour un réanimateur. Et donc, ça rendait impossible le fait que l'État s'adapte depuis le printemps dernier pour qu'il soit opérationnel aujourd'hui.
Sur le premier point, en fait, il se trouve que avec les tests que nous faisons actuellement à la population, nous savons lire l'avenir à 2 à 3 semaines. Puisque, comme on fait actuellement des tests à la population générale et que 20% de ces tests sont positifs, on sait à peu près le nombre de gens qui statistiquement vont se retrouver à devoir être hospitalisés dans 15 jours ou 3 semaines et à être en réanimation dans 15 jours ou 3 semaines. Donc, oui, le président a raison, dans 15 jours, aux alentours de mi-novembre, nous serons saturés si nous n'augmentons pas le nombre de lits de réanimation. Donc c'est ça tout l'enjeu, c'est d'arriver aujourd'hui à ouvrir des lits, à partir des lits d'autres services. Donc évidemment, d'autres spécialités. Alors sur le deuxième point, le président a raison de dire qu'il faut 15 ans pour former un réanimateur et plusieurs années une infirmière spécialisée en réanimation. Mais c'est pour cela qu'il fallait mettre les 8 mois à profit pour nous préparer. Alors comment? En fait, tout le sujet, c'est que nous aurions dû transformer une administration sanitaire de paix en administration sanitaire de guerre, c'est-à-dire prendre des mesures qui sont des mesures extraordinaires. En fait, si nous restons à périmètre constant, avec nos moyens constants, effectivement, on ne peut pas y arriver. C'est pour ça que moi, plusieurs fois, j'ai dit au président qu'il fallait d'abord faire la liste de tous les professionnels qui, dans l'Union européenne, avaient une expérience de réanimation, au moins qu'on ait cette liste, pour savoir dans quelles réserves humaines on peut aller piocher, ça on ne l'a toujours pas fait. Pareillement en France, bon, il n'y a pas de liste, par exemple, des infirmières qui ont un exercice de réanimation dans les qui ont fait de la réanimation dans les trois dernières années et qui ne sont plus en poste. Ça, il faudrait avoir cette liste pour faire de la mobilisation générale. De la même manière, je fais une proposition un peu iconoclaste qui consiste à dire on va prendre les gens dans la rue qui ont une petite expérience de secourisme, la Croix-Rouge, etc. Ceux-là, on les forme en quelques semaines à nous aider à des tâches non spécialisées, donner à manger aux patients, brancarder, tenir compagnie aux patients dans les EHPAD, par exemple, c'est quelque chose de fondamental. Ça nous ferait des bras en plus. Et puis là aussi, on peut imaginer des systèmes de plus en plus sortant de l'ordinaire, mais quand c'est la guerre, c'est la guerre. Par exemple, demander à des aides-soignantes de les former sur une ou deux tâches ou trois tâches extrêmement spécifiques que réalisent habituellement les infirmières. Ces aides-soignantes, eh bien, on les monterait en compétences en quelques semaines sur deux ou trois tâches, ce qui permettrait d'aider les infirmières. Et puis, on ferait pareil avec les infirmières, les internes, etc., etc. Donc, si vous voulez, évidemment, le président a raison qu'on ne va pas former des réanimateurs en 15 ans, en 3 semaines. Mais ce qui est extrêmement irritant, encore une fois, c'est que depuis le mois de mars, rien n'a été fait pour préparer une mobilisation générale, une sorte d'incapacité à réfléchir en dehors du cadre habituel. Et pardon, ce n'est pas moi qui dis que c'est la guerre, c'est le président lui-même. Et bien, quand c'est la guerre, on donne un fusil à l'instituteur. Ce n'est pas pour ça que c'est un combattant, mais on lui apprend à combattre. Et bien, c'est pareil, il faut réfléchir en dehors des clous. Et puis, j'avais un dernier élément, si vous me permettez. Si on n'y arrive pas et qu'il nous manque du monde, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va voir à l'étranger. J'ai parlé de l'Europe, mais on peut aller voir aussi d'autres grands pays. Et à titre un peu de provocateur, j'avais dit à nos ministres, eh, vous allez voir l'ambassadeur de Chine, vous lui dites qu'il faut 200 réanimateurs et 2000 infirmières, et puis on voit ce qu'ils peuvent nous donner. Vous voyez, gouverner dans une situation de crise, c'est savoir prendre une décision atypique.
Professeur Juvin, est-ce que ces mesures que vous énoncez, est-ce que vous les avez fait remonter donc à l'exécutif? Est-ce qu'il vous a répondu? Et est-ce qu'il y a une possibilité pour la personne qui est sur le terrain de les appliquer à son échelle?
Écoutez, je les ai fait remonter, ça, oui, bien sûr, je les ai fait remonter au président, aux membres du gouvernement, tout le monde est tout à fait au courant, en plus je les ai rendus publics pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que tout le monde le sache. Donc elles ont été reprises, elles ont même été, je crois, posées en question orale, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, par des députés et des sénateurs, au gouvernement. Donc on a mis des tas de choses sur la table. Et on a l'impression à la fois qu'il n'y a pas de réponse sur ces solutions atypiques qui, je veux le dire, sont loin d'être la panacée, sont loin d'être des solutions idéales et sont loin d'être des solutions faciles à mettre en œuvre. Tout ce que je dis, j'en suis absolument conscient. Mais encore une fois, il est évident que plus vous attendez pour mettre en place des solutions atypiques, plus elles sont difficiles à mettre en œuvre. Donc on est dans une situation où le déconfinement est un échec, contrairement à ce qu'a dit le président, qui a dit le contraire hier, enfin, qui prétend que les mesures qui ont été prises étaient les bonnes. Bien, entre nous, heureusement qu'elles étaient les bonnes, parce que si on est amené à reconfiner, c'est que qu'est-ce qu'il aurait été si elles avaient été mauvaises. C'est cette impression d'impréparation permanente et que le virus court très vite, c'est une certitude, et que nous, on est juste derrière, enfin, on est très loin derrière, et que chaque fois que le virus fait un bond, eh bien, on ne le voit pas arriver et on reprend 100 mètres dans la course.
Professeur, l'un de nos chroniqueurs disait, mais la crise n'aurait pas dû être gérée, ne doit pas être gérée au niveau du ministère de la Santé, mais du ministère de l'Intérieur. Est-ce que c'est votre avis?
Alors, ce qui est certain, c'est que la crise doit être gérée avec un seul chef, ça c'est sûr. Il faut qu'il y ait une unité de commandement. On voit bien qu'il y a un problème d'unité de commandement, à part le président, bien sûr, qui joue son rôle. Mais d'une manière opérationnelle, il faut un type qui soit à la manœuvre. Et c'est vrai que par certains aspects, en particulier d'unité de commandement, de logistique, on a plus affaire à... C'est une crise systémique, vous voyez. On l'a bien vu sur les affaires de ravitaillement qui étaient très défaillants pendant la première crise et qu'ils sont par exemple sur le vaccin contre la grippe, là, qui n'est pas assez disponible pour tout le monde. Je ne sais pas si c'est l'intérieur, en tout cas, le ministère de la Santé tel qu'il existe est un ministère de paix et ce n'est pas un ministère de temps de guerre. Et donc c'est vrai que lui, il est assez inadapté.
Professeur Juvin, il y a la date du 1er décembre qui a été annoncée. Est-ce qu'à votre avis, on va déconfiner pour Noël? Est-ce que c'est l'objectif? Est-ce que vous y croyez?
Écoutez, moi, je ne crois pas, je n'ai pas à croire ou à ne pas croire à des prévisions de ce type. Ce que je sais, c'est que on sait à peu près ce qui va se passer dans les trois semaines qui viennent, puisqu'on voit à peu près le nombre de positifs actuels, donc on sait qui va se retrouver en réanimation. Ce que je dis est assez simple. Si on veut déconfiner le 1er décembre, il faut que nous ayons un état de préparation de déconfinement qui soit très supérieur à ce que nous étions il y a encore quelques jours. Si vous comprenez, même cause, même effet. Si on redéconfinait le 1er décembre, ce qui me paraît très court, hein, pour être très franc, mais enfin bon, je pense qu'il y a aussi d'autres raisons pour déconfiner, qui c'est l'approche de Noël et une activité humaine, économique, pour le pays qui est importante au moment de Noël. Donc je comprends que le président se fixe cet objectif. Et puis il est normal qu'il fixe des objectifs en essayant de donner confiance aux Français. Donc, admettons, j'entends le 1er décembre, mais le 1er décembre, si on le fait, ce déconfinement, il faudra évidemment qu'on ait des moyens que nous n'avons pas là. Il faut qu'en 4 semaines, par exemple, nous arrivions à mettre en place des systèmes pour enfin isoler les positifs et pas chez eux. Depuis le mois de mars, nous disons, le gouvernement dit, nous allons isoler dans des hôtels qui auront été réquisitionnés les gens qui sont positifs. Pourquoi cela n'est toujours pas fait 8 mois plus tard? Est-ce qu'on va arriver à le faire en 4 semaines? J'en accepte le bien.
Alors, Europe 1 annonce ce matin qu'Emmanuel Macron donc pourrait confiner jusqu'à 8 à 12 semaines. Hein. Est-ce que ça vous paraît quelque chose pour surmonter cette deuxième vague? Ce qui nous emmènerait quand même plus loin.
Oui, ce qui nous emmènerait plus loin. Mais il est certain que, là aussi, je ne fais pas d'exercice divinatoire, mais 3 à 4 semaines, ça nous permet d'aplatir ce que nous savons déjà être dans le pipeline des gens qui sont déjà infectés. Donc c'est vrai que ça ne nous donne pas beaucoup de manœuvre. Si on commence à dire qu'on va rester 8 semaines ou 12 semaines, c'est-à-dire 3 mois, les Français vont perdre confiance. Donc je pense que très rapidement, il faut que chaque semaine, le président apporte des données chiffrées en disant voilà l'évolution et voilà où nous nous trouvons. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on découvre le 28 novembre que 3 jours plus tard, on ne va pas déconfiner.
Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, professeur Philippe Juvin. Je rappelle que vous êtes chef des urgences à l'hôpital Pompidou. Je vous remercie de nous avoir accordé une demi-heure de votre temps si précieux en ce moment. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.